Ce podcast vous est proposé par BPI France Université. Retrouvez des centaines de formations pour dirigeants de PME sur bpifrance-université.fr.
L'industrie du futur, une série de podcasts pour décrypter l'industrie du futur et progresser pas à pas dans votre transformation.
Donc l'industrie du futur, c'est pas juste une usine moderne avec des robots et des logiciels intégrés qui tout au long de la chaîne de valeur. C'est pas non plus un commercial ou un vendeur 4.0 qui a une super tablette et différents logiciels de prospection. C'est tout d'abord une analyse du changement des besoins et des attentes des clients.
Bonjour et bienvenue dans cette série de podcasts dédiés à l'industrie du futur. Aujourd'hui, j'ai la chance d'accueillir Stéphane Guinchard.
Bonjour.
Bonjour Stéphane. Vous êtes consultant. Vous accompagnez les PME et les ETI dans leur croissance en travaillant sur des sujets de stratégie. Croissance organique, croissance externe, business model, mais aussi sur des questions de marketing stratégique et de politique commerciale. Avant le conseil, vous avez passé 10 ans dans l'industrie automobile, chez des équipementiers, dans des fonctions de marketing et business development. Aujourd'hui, vous êtes beaucoup sollicité pour des questions de stratégie en lien avec l'industrie du futur et notamment des questions de développement commercial. Et c'est précisément sur ces sujets que nous allons échanger aujourd'hui. Pour commencer, peut-être pourriez-vous nous expliquer en quelques mots ce qui représente pour vous l'industrie du futur ? Quelle est votre conviction en la matière, si je puis dire ?
Oui, alors pour moi, la démarche industrie du futur, c'est une façon de répondre aux nombreux changements, aux nombreuses mutations, aux ruptures technologiques qui ont lieu en ce moment. C'est aussi une façon de formuler une réponse aux méga-trends, à savoir ces grandes tendances de fond qui modifient tous les aspects d'une activité industrielle, que ça soit tout ce qui est côté production, mais également tout ce qui est habitude de consommation des clients finaux que l'on sert. Donc l'industrie du futur, c'est pas juste une usine moderne avec des robots et des logiciels intégrés qui tout au long de la chaîne de valeur. C'est pas non plus un commercial ou un vendeur 4.0 qui a une super tablette et différents logiciels de prospection. C'est tout d'abord une analyse du changement des besoins et des attentes des clients. C'est pour ça qu'il est critique en fait de pas se poser la question industrie du futur pour son activité uniquement comme une question d'investissement, d'évolution des outils industriels, est-ce que j'achète un robot, ou des outils pour les commerciaux, mais c'est surtout pour moi la nécessité ou l'opportunité de revoir sa stratégie dans son intégralité.
Oui, revisiter sa stratégie, un vaste sujet que nous allons aborder dans un instant. Mais pour être très concret, si nous prenions l'exemple de l'industrie automobile, que vous connaissez très bien, par quel changement, mutation ou rupture technologique est-elle impactée ?
Alors, l'automobile, c'est un bon exemple, puisqu'effectivement, aujourd'hui, elle est impactée par plusieurs question de fond d'ordre sociétal. Il y a bien sûr la question de l'économie des ressources, l'impact environnemental, les aspects de durabilité, ce qui se traduit par le besoin de moteurs plus efficaces, voire le recours à des énergies dites plus propres, et ce qui justifie notamment la tendance aujourd'hui sur l'électrification des trains moteurs. Il y a également des changements de modèle, à savoir la bascule de la propriété du véhicule vers des modules de partage ou d'usage de ces véhicules. Du point de vue sociétal, il y a tout ce qui est urbanisation et vieillissement des populations, avec notamment de moins en moins de jeunes qui ont le permis et quand ils l'ont, qui tendent à l'obtenir ou à le passer beaucoup plus tard. Et il y a également l'émergence de nouveaux marchés suite au développement des classes dites moyennes dans les pays dits émergents. Donc beaucoup de changements qui imposent de prendre du recul et de, bien sûr, repenser sa stratégie.
Merci. Poursuivons donc avec la stratégie. Vaste projet que de la revisiter à la lumière des méga-trends, des changements à l'échelle des marchés mondiaux ou plus simplement de vos clients. Alors, comment l'abordez-vous ?
Alors tout d'abord, voyons-le comme une grande opportunité, hein, plus qu'un risque. Finalement, le risque réel, ce serait plutôt de rien faire ou d'en faire trop peu et puis surtout sans vision globale. Donc à mes yeux, un bon point de départ, c'est de regarder nos clients directs ou les clients finaux, hein, les clients de nos clients. Donc dans l'automobile, ça serait par exemple d'analyser où se projettent nos clients directs, par exemple les équipementiers rang 1 ou les assembliers pour un sous-traitant, et de voir également où veulent aller les constructeurs, qui eux-mêmes vont chercher à suivre les évolutions des clients finaux, vous et moi, comme acheteurs potentiels d'une voiture. Avec ces questions qui sont « qu'attendront de moi mes clients dans 5 ans ?»« Que puis-je faire ? Que dois-je faire pour être toujours bien à leur côté dans 5 ans ?» Ici, le but, c'est d'éviter que notre stratégie nous emmène à un endroit qui soit éloigné de là où nous attendent nos clients, que ce soit bien sûr en termes géographiques, mais aussi bien sûr en termes de produits, d'offres, de prestations, de propositions de valeur, QCD, qualité, coût, délai.
Le point clé, c'est donc le besoin client. Comment il évolue et comment l'entreprise peut continuer à y répondre au mieux ?
Oui, exactement. Et en fait, c'est une question de marketing stratégique. C'est vraiment trouver la bonne adéquation entre les besoins actuels et futurs de mes clients et comment je peux faire évoluer ma proposition de valeur pour toujours bien y répondre. Donc, il ne faut surtout pas hésiter à prendre les devants sur ces sujets. Il ne faut pas attendre que les clients demandent, voire même inscrivent de nouvelles exigences dans le cahier des charges. Il faut prendre les devants, il faut y aller.
Vous auriez un exemple à nous donner ?
Oui, bien sûr. L'exemple de Schmitz Cargo Bull, qui est donc un fabricant allemand de semi-remorques. Donc, la semi-remorque, ce n'est pas un produit extrêmement différencié. Mais le fabricant a choisi d'intégrer des solutions de télématique sur ses différents engins pour fournir en temps réel des données sur le kilométrage, le tonnage transporté, tout un ensemble de choses. Et ce qui lui permet aussi, par exemple, de faire des recommandations d'entretien. Donc, dans une relation client, c'est très intéressant. C'est-à-dire qu'au-delà de la fourniture classique d'un produit, ici la remorque, et éventuellement d'un service, par exemple l'entretien de cette remorque, le fabricant devient un partenaire fournisseur de données sur l'usage de ses clients, qui sont aujourd'hui, par exemple, des opérateurs de flotte ou des logisticiens. Et comme vous l'avez compris, il est beaucoup plus facile de changer de remorque que de système d'information. Donc ce type d'offre tend à favoriser la fidélité client.
C'est en effet une belle opportunité de vente supplémentaire avec le bénéfice de la fidélité client. Mais en termes commerciaux, j'imagine que ce n'est quand même pas la même chose de vendre un produit et de proposer des données, non ?
Oui, de toute évidence. Alors ça va non seulement bousculer la force de vente, mais également d'autres parties de l'organisation. D'où l'importance vraiment d'une approche globale pour bien saisir les opportunités de l'industrie du futur. Si on reste avec l'exemple des data de Schmitz Cargo Bull, on voit que ça montre bien qu'il ne s'agit pas seulement d'un enjeu commercial, comment vendre ces remorques avec la télématique embarquée, mais aussi qu'est-ce que ça implique en termes d'organisation, et notamment, il faut avoir pensé l'organisation data pour pouvoir proposer le service et pouvoir le vendre.
Très bien. Alors, avez-vous une recommandation pour un dirigeant d'entreprise qui voudrait cerner la globalité des enjeux et organiser sa réflexion ?
Il y a un outil que j'apprécie beaucoup, parce qu'il me paraît adapté à ces réflexions, c'est le Business Model Canvas, ou le Canva modèle d'affaires. C'est un outil créé par Osterwalder et qui est à la fois synthétique et exhaustif. En fait, il propose de capturer en 9 briques les éléments clés de vos stratégies ou plus précisément de votre modèle d'affaires. En fait, dans la conversation, nous avons déjà évoqué 2 de ces briques. La brique client, quel sera le besoin de mon client et de mon futur client demain ? Et comment dois-je segmenter mes clients pour bien prendre en compte leurs différences ? Ne surtout pas chercher à mettre tous ces clients dans un même paquet, les différencier, les segmenter. Et en face, il y a la brique proposition de valeur, à savoir quelles offres, au pluriel, plusieurs clients, plusieurs offres, quelles offres puis-je proposer demain et après-demain pour répondre à leurs attentes. Alors, nous n'aurons pas le temps de détailler toutes les briques, mais il y a bien sûr des briques qui tournent autour de l'outil de production et de la création de cette valeur, des briques autour des revenus et des coûts. Mais pour continuer du côté client, qui est pour moi vraiment l'angle d'attaque prioritaire, je vous propose d'en évoquer encore 2, la relation client et les canaux de distribution.
Parfait. Alors, allons-y pour la relation client.
Donc, en termes d'interaction client, d'interaction avec les clients, mais également les prospects, ne les oublions pas, les nouvelles possibilités sont innombrables, en fait. Tout d'abord, de plus en plus, avec le digital et Internet, les acheteurs vont chercher des nouveaux fournisseurs en ligne, chercher leur site web, leur présence en ligne. Les bureaux d'études aussi, les ingénieurs, vont chercher de la documentation technique sur le site des fabricants, qu'ils soient fournisseurs ou pas, pour se renseigner, pour s'ouvrir les horizons, capter des nouveautés, des innovations. Et puis également, les entreprises, elles sont de plus en plus nombreuses à mettre en lumière leur réalisation sur les réseaux sociaux, pour les mettre en avant. Ce qui a bien sûr plusieurs avantages, c'est que c'est tout d'abord une visibilité accrue à faible coût. Je poste une vidéo, je poste une photo, je poste un article.
Ouais.
C'est également une opportunité de générer des échanges techniques, voire même des partenariats. On n'est jamais à l'abri d'une bonne idée qui peut germer sur la base juste d'une photo, d'une courte vidéo et de la réaction que ça va engendrer de la part de quelqu'un qui est intéressé, et notamment pour se diversifier vers d'autres secteurs. Alors, je ne sais pas trop où aller vers ce nouveau secteur que je ne connais pas, mais quelqu'un va réagir et me dire « Attendez, si vous faites ça, moi ça m'intéresse dans mon métier ». Et puis accessoirement, mais c'est important de le mentionner, ça contribue aussi à la marque employeur pour tout ce qui est recrutement. Donc voilà, c'est beaucoup d'avantages et de bénéfices.
Et très concrètement, est-ce que tout cela change quelque chose par rapport à une démarche commerciale classique ?
Alors ici, un point clé, c'est en fait de compléter la démarche commerciale classique par exemple de l'inbound marketing. C'est cette visibilité qui vous assure que en fait, les prospects qui recherchent vos produits ou vos solutions vous trouvent, par exemple sur Internet, et vous contactent spontanément. Côté client existant, les nouveaux outils de communication, eux, permettent de faciliter les échanges, notamment entre partenaires techniques. Sachant que l'accélération de ces échanges est favorable à l'innovation, à la recherche de nouvelles solutions. C'est également une opportunité d'échapper un petit peu à l'emprise des achats qui veulent souvent garder la main sur les interactions fournisseurs et qui vont, lors d'une visite de site, s'assurer que vous ne vous baladez pas partout, que vous ne parliez pas à tous les ingénieurs. Donc voilà, ces différents canaux de communication ouvrent des opportunités.
Intéressant. Et pouvez-vous nous donner un ou plusieurs exemples pour illustrer tout cela ?
Oui, et il y a quelques années, par exemple, BMW avait constitué un pôle d'innovation. C'était autour des matières plastiques et notamment de la fibre de carbone. Donc le groupe BMW avait rassemblé ainsi des acheteurs, des ingénieurs et des gens de la prod pour innover dans le sens de l'allègement des châssis, l'allègement des structures, avec notamment en tête les châssis véhicules électriques, ce qui allait devenir les séries I un peu plus tard. Donc ils avaient rassemblé plusieurs fonctions internes au même endroit, donc géographiquement parlant. Et ils avaient contacté beaucoup de fournisseurs, un certain nombre qu'ils ne connaissaient pas, puisqu'ils voulaient vraiment se développer sur cette nouvelle matière, la fibre de carbone. Donc ils avaient contacté des fournisseurs qu'ils ne connaissaient pas, souvent via Internet. Le travail également après s'était fait en mode très agile, très collaboratif, souvent à distance, avec chacun qui apportait son expertise de partout dans le monde. Et donc bien sûr, il était assez important d'être visible pour pouvoir être contacté, et puis après d'être prêt à jouer ce jeu du mode agile, collaboratif à distance. Et d'ailleurs, dans cet esprit, c'est vrai qu'avec toutes les expertises qui se spécialisent et la complexité technique croissante des produits, des matières, ça peut être intéressant de mettre face à un client, un ingénieur généraliste, un expert technique qui, pour le coup, ne sera pas impliqué dans le commercial, mais qui, de toute façon, va faire du commercial, puisqu'il va faire la promotion de l'expertise, du savoir-faire, des réalisations du fournisseur, et qui va être une ressource clé pour orienter le client. Alors, j'ai un exemple B2C, mais qui me vient en tête, mais qui est assez frappant. C'est toujours BMW qui, dans ses grandes concessions, avait déployé des product genius, des génies produits, des experts produits. J'imagine en s'inspirant des Genius Bar d'Apple, des Apple Store. Et c'était donc des personnes qui sont là en fait pour vous aider avec les questions techniques, les questions que vous pouvez vous poser dans le choix de votre véhicule. Parce que c'est vrai que le catalogue d'options est assez complexe, les combinaisons sont assez innombrables. Et donc, ils étaient là pour vous aider dans ces choix. Et quand vous aviez fait votre choix, ils passaient le relais, ils vous orientaient vers un vendeur. Donc eux étaient vraiment des conseils techniques sans enjeux commerciaux. Cette séparation paraît assez intéressante pour finalement mieux vendre en amont, mieux convaincre sur le produit sans s'embarrasser des enjeux de négociation de prix, puis après vraiment passer à la phase commerciale, négociation dans un second temps.
Merci, il y avait vraiment beaucoup à dire sur cette brique de la relation client. Mais vous nous aviez aussi promis d'aborder la brique canaux de distribution. Alors pouvez-vous nous en dire deux mots ?
Oui, bien sûr. Donc cette brique canaux de distribution, elle, couvre les moyens mis en œuvre pour réaliser et livrer votre proposition de valeur à votre client. Donc, dans l'automobile, c'est une tendance présente depuis très longtemps. Tout ce qui concerne l'intégration des flux d'informations, notamment concernant les commandes et les plannings de livraison des pièces. Tout ce qui est communication par EDI, la gestion des flux tendus. Voilà, c'est en place depuis fort longtemps dans l'industrie automobile pour coordonner tous les flux d'informations et de pièces entre les différents acteurs, notamment les équipementiers et les constructeurs. Mais au-delà de ces flux de produits, je garderai moi en tête l'exemple des flux de données de Schmitz Cargo Bull. Avec cette question, c'est comment puis-je enrichir mes échanges avec mon client au-delà du produit que je lui fournis et que je lui livre. Alors un autre exemple peut-être pour illustrer, l'entreprise Ademaquin. Elle a construit et entretient une base de données avec toutes les pièces détachées des véhicules, qu'ils soient anciens ou en production. Et donc, entreprise qui peut vous fournir toutes les données techniques dont vous pourriez avoir besoin, par exemple pour des benchmarks techniques ou des investigations produits. Par exemple, si vous souhaitez avoir toutes les informations sur les fixations de portes, les ouvertures de coffres ou les rétroviseurs des Peugeot, Renault, BMW, Volkswagen des 30 dernières années, Ademaquin vous les fournit. Mais au-delà de ce service, de cet accès à leur base de données, de cette livraison d'une information technique, ce qui est intéressant, c'est qu'ils organisent aussi des séminaires pour animer et faire vivre ces données auprès des communautés d'ingénieurs qui sont impliqués, de tous les concepteurs de pièces et de véhicules, afin de stimuler la créativité. Et en fait, ils fournissent, ils livrent la matière brute, mais ils co-animent aussi le processus.
Très bien. Alors, tout cela étant posé et face à ces très nombreuses possibilités, avez-vous une recommandation spécifique à destination des équipes commerciales des industries du futur ?
Oui, plusieurs même. Alors, face à ces nombreuses possibilités, je pense que déjà, il ne faut pas perdre de vue les bases du métier, qui sont déjà la recherche de prospects, et puis quand on a trouvé des clients, le contact client. Et donc, moi, je pense qu'il ne faut surtout pas délaisser les visites clients face à face, même si c'est parfois compliqué selon le contexte. Mais pour moi, on n'a encore rien inventé de mieux que de prendre un café avec son client. Et moi, je garde en tête mes visites à la cafétéria du technocentre Renault à Guyancourt. C'est là que j'ai glané les informations les plus précieuses. Comment ça se passe en termes de les projets en cours, comment se passe-t-il? C'est quoi les futurs projets? C'est quoi les grandes questions technologiques qui sont débattues au sein de tel et tel constructeur? Comment ça se passe avec les confrères concurrents? Voilà, est-ce que les projets se passent bien, pas bien, etc. Donc c'est extrêmement précieux et voilà, il faut préserver ce contact direct. C'est une évidence. Après, ce qu'il faut faire, c'est juste réfléchir à comment intégrer les nouveaux outils, les nouvelles façons de faire, toutes ces nouvelles opportunités d'enrichir la relation client dans sa boîte à outils. Côté prospect, nouveau client, si votre inbound marketing là, qu'on a évoqué plus tôt, s'il fonctionne bien, il faut faire attention à ne pas se retrouver noyé sous un flot de demandes diverses et variées, des demandes d'échantillons, des demandes de devis, des demandes de prototypes. Et rester encore une fois sur les bases du métier qui sont, un, quels sont mes objectifs commerciaux et mes priorités? Et puis, deux, toujours faire preuve de discernement et pas partir tout feu, tout flamme sur une nouvelle opportunité et bien garder l'esprit focalisé sur les priorités qu'on s'est définies. Et d'ailleurs, c'est pour ça que je recommande chaudement des outils très simples de filtrage, de sélection d'opportunités, juste pour s'assurer en permanence de consacrer toujours l'essentiel de ses efforts sur les pistes les plus prometteuses.
Merci Stéphane. Nous arrivons déjà à la fin de notre entretien. Un mot de conclusion ?
Oui, alors pour résumer, j'insisterai beaucoup sur l'importance de garder une vue globale, interne, externe, court terme, long terme, englobant bien toutes les fonctions de l'entreprise, production, commerce, ne pas isoler les fonctions. Et avant de trop vite zoomer sur un sujet et donc d'aborder peut-être le sujet par le petit bout de la lorgnette, vraiment évaluer les risques et opportunités de l'industrie du futur globalement. D'abord pour voir comment nos clients vont évoluer, puis comment nos offres peuvent évoluer pour bien y répondre. Et trois, enfin, bah, définir les outils de notre commercial 4.0, bien sûr en termes d'outils dont il dispose, mais également bien repréciser finalement ce qu'il va vendre à ses clients et ses futurs clients.
Ce sera donc le mot de la fin. Merci encore Stéphane pour ces pistes de réflexion très intéressantes pour mieux faire le lien entre stratégie et développement commercial dans le contexte de l'industrie du futur. Au revoir et à très bientôt pour un nouvel épisode de votre podcast L'industrie du futur. Au revoir.
Merci, au revoir.
Ce podcast vous a été proposé par BPI France Université. Retrouvez des centaines de formations pour dirigeants de PME sur bpifrance-université.fr.